Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération. C'est le livre de Jean-Pierre Filiou, publié à La Découverte. Jean-Pierre Filiou que je reçois dans quelques instants, mais tradition désormais bien établie oblige. Nous écoutons du Zarb. Écoutons le Zarb de Jamshid Shemirani, grand maître iranien. Le Zarb, c'est un instrument, vous l'entendez, de percussion, qui nous propose des notes graves et des notes claires, le dom et le bak. Raison pour laquelle on appelle parfois le Zarb lui-même un dom-bak.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Culture d'Islam sur France Culture pour ce livre publié aux éditions de La Découverte. Le livre a été publié en 2015. Hein. Son titre, je le rappelle, Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération. Dans ce livre, vous commencez d'une façon un peu étrange. Vous commencez par nous parler du Panthéon. Dans ce livre consacré à l'histoire récente du monde arabe, vous commencez par nous parler du Panthéon et plus précisément de quatre vignettes d'une fresque du Panthéon. Quatre vignettes qui sont associées à quatre dates majeures de l'histoire de France ou plus précisément non seulement de l'histoire de France mais de l'histoire de la relation entre la France et le Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette fresque ? Donc on invite nos auditeurs à aller voir, et puis sur ces dates.
Oui, effectivement, hein, cette fresque n'est pas la plus visitée, la plus fréquentée du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, mais la patrie a jugé bon de mettre en scène Charlemagne, donc l'empereur romain d'Occident, recevant les clés du Saint-Sépulcre, donc l'église la plus sainte de la chrétienté à Jérusalem, de la part d'une délégation qui lui aurait été envoyée par le calife de Bagdad de l'époque, Haroun al-Rachid, qu'on connaît mieux du fait des mille et une nuits. Alors cette présentation des clés du Saint-Sépulcre est une illusion. Elle n'a jamais existé dans la réalité historique.
Donc une légende dorée.
Une légende dorée, hein, ce sont des pèlerins qui sont venus, des chrétiens, l'apporter des ordres qui étaient présents à Jérusalem, à l'empereur romain d'Occident. Mais il est frappant que la République, et pas n'importe laquelle, hein, la troisième est jugée bon de mettre don en scène, mais surtout de mettre en scène ce qui est très important. J'ai été diplomate pendant une vingtaine d'années, un échange d'ambassade, et pas entre n'importe qui, entre le principal souverain d'Occident, Charlemagne, et le principal souverain d'Orient, Haroun al-Rachid, qui donc faisait acte de bonne volonté, échangeait des présents et était donc prêt à nouer des relations d'amitié, parce qu'ils avaient, faut bien le dire, un ennemi commun, déjà, qui était l'Empire byzantin, c'est-à-dire cet empire romain d'Orient, qui s'opposait à la fois aux musulmans là-bas et aux chrétiens d'Occident ici.
Oui, donc on n'a rien inventé aujourd'hui. L'ennemi commun déjà servait à nouer des solidarités, hein, même des solidarités parfois improbables. C'est une fresque d'Henri Léopold de Lévy. La scène dont vous parlez a eu lieu ou aurait eu lieu donc en 802. La seconde vignette, elle, nous conduit en 1270. Alors qu'est-ce qui se passe en 1270 et là encore, pourquoi est-ce que vous l'avez mentionné? Et en réalité, c'est ça ma question, c'est-à-dire que on a quatre vignettes, on a une fresque au total, on a quatre grandes dates, 1802, 1270, on va en parler. Je voudrais savoir pourquoi vous avez mis, je disais que c'était étrange, la mention de cette fresque en amont ou en exergue de votre ouvrage.
D'abord, l'échange de bons procédés diplomatiques, hein, on n'y revient jamais assez. Et puis en même temps, le fait qu'on a deux personnalités fondatrices, emblématiques, symboliques, hein, Charlemagne pour l'Occident et Haroun al-Rachid pour l'Orient, qui sont dans cette relation fluide. Et 1270, donc la vignette suivante, un peu le contrepoint. J'ose pas dire le contraire, parce que quand Louis IX, qui n'est pas encore Saint-Louis, ne sera que béatifié évidemment qu'après sa mort, meurt au pied des murailles de Tunis, qu'il espère conquérir. C'est sa deuxième croisade, il a déjà échoué assez lamentablement dans son expédition d'Égypte deux décennies plus tôt. En fait, il pense qu'il peut convertir le souverain de Tunis. Il n'est pas autant dans un esprit combatif qu'il l'avait été un peu plus tôt en Égypte. Et il va donc mourir, hein, sans doute de dysenterie. Après, bon, son corps et ses reliques vivront, si j'ose dire, leur vie propre après sa mort. Mais je pense que c'est important, et j'ai choisi 1270 plutôt que, par exemple, 1099, hein, la prise de Jérusalem par Baudouin et le premier royaume franc, parce que c'est la fin d'un cycle et au fond, les croisades apparaissent comme une parenthèse aberrante.
C'est exactement l'expression que vous employez dans le livre, dans l'histoire plus longue de relations qui sont justement des relations de diplomatie ou des relations fluides.
De dialogue.
Voilà.
Hein? Et on retrouve la posture, hein, de Charlemagne et d'Haroun al-Rachid entre François Ier et Soliman dit le Magnifique, al-Kanouni, le législateur, quand en 1536, il noue un traité d'alliance qu'on appelle improprement en français les capitulations, parce que ça donne l'impression que les Turcs ottomans auraient capitulé face aux Français.
Donc là, on rappelle, pardon, qu'on passe à la troisième des dates que vous mentionnez, 1536, et François Ier qui s'engage dans une alliance avec Soliman le Magnifique.
Voilà, et une alliance qui est dans la continuité de ces rapports entre Charlemagne et Haroun al-Rachid, et à mon avis, dans la continuité de ce qui aujourd'hui devrait faire sens, quels que soient les prêcheurs de haine ou de guerre de civilisation qui vont dans la direction contraire, et à mon avis dans la direction contraire à l'histoire. Moi, je suis historien, évidemment j'ai des convictions, j'espère les défendre avec quelques arguments, mais j'ai surtout cette séquence que je mets en lumière. Et donc après 1536...
Voilà, la quatrième vignette, la quatrième date, 1860...
1660, parce que c'est en fait un ambassadeur de Louis XIV.
Oui, pardon, et c'est même 1680, exactement, j'ai inversé le 6 et le 8,
voilà.
Pardon.
Donc 1680, c'est un ambassadeur de Louis XIV, pas n'importe lequel, c'est le chevalier d'Arvieux, qui a servi de conseiller technique à Molière pour le bourgeois gentilhomme, et qui va, en étant en poste au Moyen-Orient, très précisément à Alep, une ville qui m'est très chère, qui est d'ailleurs très chère à tous ceux qui sont sensibles au monde arabe et la civilisation islamique. Et d'Alep, il va dire « nous pourrions nous allier aux Arabes contre les Turcs ». Et ça, c'est une nouveauté.
Contre l'occupation ottomane.
Et donc, cette idée que quelque part, il y aurait un peuple français et de l'autre côté, un peuple arabe qui aurait un destin commun, c'est la thèse de mon livre, et que celui-ci, peu à peu, prend forme dans l'apprentissage réciproque, dans les conflits, hein, qui ont été nombreux, mais aussi dans la construction de l'identité des uns comme des autres dans cette relation.
Alors là, on comprend mieux maintenant pourquoi vous placez donc en exergue du livre cette fresque, parce que ce que vous voulez faire, dites-moi si je me trompe, c'est à la lumière de la longue histoire, hein, Aurélie Braudel, montrer que la logique de fond des relations entre la France et le monde arabe, c'est une logique de coopération, une logique d'échange, etc. Si ce n'est l'exception aberrante que vous avez signalée tout à l'heure qui se clôture avec Saint-Louis, donc Louis IX en 1270. Et évidemment, on imagine bien que, en rappelant cette longue histoire, pour vous, l'enjeu, c'est de faire peut-être allusion à une aberration contemporaine. C'est-à-dire à ce que vous dénoncez dans le livre, ou en tout cas ce que vous pointez du doigt, comme un manque de compréhension aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde arabe. Compréhension dans les deux sens du terme d'ailleurs, hein, c'est-à-dire un manque d'empathie peut-être, et puis un manque d'intelligence par rapport à des processus qui ont cours aujourd'hui.
C'est absolument cela, et je crois que sans empathie, il ne peut pas y avoir intelligence. Et que ce que nous avons perdu au fil de l'histoire la plus récente, c'est cette empathie, hein, qui n'est pas quelque chose qu'il faut combattre, loin de là. Je suis universitaire, j'ai quelques références académiques. Je crois que c'est indispensable pour arriver à un travail intellectuel conséquent. Et on voit bien, hein, alors là, je saute jusqu'à la période la plus contemporaine, que dans les tourments, dans les troubles, dans les horreurs, dans les tragédies de ces derniers temps, nous avons perdu ce sentiment commun qui, je l'espère, peut éclairer les épreuves actuelles, en montrant qu'il y a un horizon commun, qu'il y a un horizon partagé, qui est celui d'une libération.
Quand vous dites ce sentiment commun, c'est même plus précisément ce sentiment d'un commun. Hein, ce sentiment de commun qui est indiqué dans le titre, hein, de même de votre livre, que je rappelle, Les Arabes, leur destin et le nôtre, comme si effectivement, et c'est votre recette, donc pas un comme si, parce que en réalité, eh bien, il y aurait une liaison historique entre ce qui se passe du côté du monde arabe et la destinée de la France. Hein.
On le voit.
En quel sens est-ce que vous pouvez expliciter ce commun? Qu'est-ce qu'il y a en commun et en quel sens devrions-nous retrouver ce commun?
L'événement fondateur, hein, et c'est pas seulement moi qui l'écris, c'est de bien plus grands historiens que moi, Henri Laurence et d'autres avant, c'est l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Donc ça veut dire que quand la République française, quand la Révolution se projette hors de l'Europe, elle se projette en Égypte et elle va parler à des Arabes qui se considèrent encore comme musulmans. C'est d'ailleurs une des raisons du décalage. C'est que, au fond, Bonaparte prêche le soulèvement de ce qu'il croit être un tiers-État arabe contre la noblesse ottomane ou turque qui domine toute cette région à partir de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, et que ce soulèvement n'aura pas lieu parce que ligne de fond, elle va prévaloir entre musulmans et chrétiens. Mais cela dit, ce choc aura des retombées immenses pour l'ensemble du monde arabe. D'ailleurs, pour les Arabes, c'est le début de ce qu'ils appellent la Nahda, la Renaissance. Et donc, cette Renaissance, j'essaie de montrer comment, dans sa philosophie, son esprit propre, elle est l'équivalent de nos Lumières et comment elle s'est littéralement abreuvée à la source de Paris, comment Paris est l'endroit où une génération, ou plutôt des générations, pendant tout le XIXe siècle, d'intellectuels arabes vont venir forger leur expérience, leurs projets et leurs espoirs d'émancipation.
Alors, elle s'est abreuvée à Paris, mais dites-vous, deux siècles plus tard, pour les peuples arabes, la Nahda n'a pas épuisé sa promesse de libération. Et vous l'expliquez à partir de ce moment fondateur pour cette Nahda, c'est-à-dire pour cette Renaissance arabe, de l'expédition d'Égypte, hein, sur laquelle vous insistez longuement, qui est cette séquence historique qui va durer précisément de mai 1798 à août 1801. Voilà ce que vous dites à propos de cette expédition d'Égypte, ou plus exactement de la conséquence immédiate qu'elle va avoir. Vous la désignez comme un événement Janus, hein, c'est-à-dire donc un événement à double face. Ça va encore mieux en le disant, hein, même si on pense que tout le monde encore aujourd'hui sait ce qu'est un phénomène Janus. Vous dites, cet événement Janus, donc de l'expédition d'Égypte, à la fois agression coloniale, mais aussi entreprise culturelle, aura un impact profond et durable. Les historiens arabes considèrent en effet que cette campagne marque le début de la Nahda, littéralement la Renaissance. Les Arabes vont alors s'attacher à relever le double défi de la domination ottomane, d'une part, de l'expansion occidentale, d'autre part. Ce vaste mouvement d'émancipation collective et individuelle débute avec la secousse française de 1798-1801. Voilà ce que vous dites, sauf que ce double, ce mouvement plutôt d'émancipation va se heurter à un double obstacle, au moins. D'un côté, il va être sans arrêt contrarié par une série en rafale qui dure encore jusqu'à aujourd'hui d'autoritarismes politiques qui vont essayer de bâillonner ces velléités et ces revendications d'émancipation populaire. Et puis de l'autre côté, ce mouvement d'émancipation ou de renaissance ne va pas être aidé non plus parce qu'il va rencontrer un second obstacle qui est celui justement de l'incompréhension d'une partie de l'Occident au moins.
Incompréhension et intervention, hein. C'est quand même le siècle, oui. Le siècle des invasions, la plus terrible.
Et intervention d'autant plus désastreuse qu'elle est fondée sur beaucoup d'incompréhension, peut-être.
Et d'aveuglement. On sait que quand les Français débarquent en Algérie en 1830, au fond, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont y faire. Et que ce n'est que très progressivement, par une logique de guerre de plus en plus débridée, on parlera de guerre totale dès la décennie 1840, qu'ils vont occuper l'intérieur du pays alors qu'ils se sont longtemps contentés de la côte qui était sous domination directe des Ottomans. Mais en même temps, on a des échanges extraordinaires qu'on gagnerait à évoquer aujourd'hui. Quand on a les disciples de Saint-Simon qui vont aussi bien en Égypte qu'en Algérie porter justement leur projet utopique. Alors ça peut aboutir au canal de Suez d'une part, ça peut aboutir à la vision sous Napoléon III d'un royaume arabe où Français et Arabes auraient vécu chacun dans leur spécificité, mais sous l'autorité commune de l'empereur. Il y a cet échange extraordinaire entre Ernest Renan et Jamal ed-Din el-Afghani au Collège de France sur l'islam est-il une religion de progrès ou pas. Ce à quoi Afghani, qui n'est pas afghan, mais qui est iranien, donc il n'est pas arabe, je le précise tout de suite, ne répond pas en disant « Ah non, l'islam a toutes les réponses, l'islam c'est formidable ». Il dit au contraire « Pourquoi voulez-vous que nous soyons éternellement victimes d'une forme de malédiction ? L'islam peut se rénover comme les autres religions ?» Et on voit que ce dialogue se fait de plein pied. Il y a Rafat Artaoui, qui est le commissaire politique envoyé par l'université donc religieuse d'El-Azhar pour encadrer les étudiants égyptiens, les boursiers qui viennent à Paris. Et en fait, c'est lui qui tombe totalement amoureux de la civilisation française, qui écrit un livre dont le titre en français est « L'or de Paris » et qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'on se hisse au niveau de ces Français.
De là, donc, on vous l'explicitait très bien maintenant, le qualificatif d'événement Janus. Hein, c'est-à-dire il y a à la fois cette colonisation qui est ce que vous décrivez ici comme une véritable agression, comme une véritable invasion et un bouleversement subi. Hein, mais la période historique est plus complexe. Et en même temps, il y a cette inspiration culturelle qui est nourri, vous venez de le dire, encore à partir de Paris. Est-ce que ça veut dire, mais dans ce domaine on marche toujours sur des œufs, que la colonisation, la période de la colonisation n'a pas été aussi négative, ou aussi radicalement et unilatéralement négative qu'on l'entend parfois?
Il faut bien voir que deux interventions vont aller directement à l'encontre de la logique de Narda. Oui. C'est le protectorat français sur la Tunisie en 1881 et c'est l'occupation britannique de l'Égypte en 1882, parce que dans ces deux pays, donc l'Égypte et la Tunisie, des dynasties s'étaient émancipées des Ottomans pour mettre en place des projets de modernisation par le haut, plutôt de type despote éclairé en Égypte et plutôt de type constitutionnel en Tunisie. On voit que là encore, hein, la spécificité de la Tunisie, elle date pas de Bourguiba. C'est un siècle plus tôt et bien avant que les Ottomans eux-mêmes ne l'élaborent, que les Tunisiens se dotent d'une constitution où, de fait, ça n'est pas explicite, mais il y a séparation du politique et du religieux. De même que la Tunisie avait aboli l'esclavage 2 ans avant la France. Donc là-dessus, il y a une forme d'avant-garde tunisienne qui n'est pas nouvelle, mais aussi de rôle prépondérant de l'Égypte. On retrouve le couple...
Et tout cela qui est inspiré par des modèles occidentaux, dans une logique qui est une logique d'adaptation et de... Quand vous parlez du modèle de séparation entre le politique et le religieux, est-ce que cette déliaison est inspirée par la sécularisation occidentale et explicitée comme telle ou
Il y a très clairement en Égypte, avec le concept de civilisation, qui est celui qui est mis en avant par la Mehemet Ali, donc, qui règne sur l'Égypte de 1805 à 1848 et ses successeurs, une volonté d'émulation de l'Occident. Je dirais que du côté de la Tunisie, avec donc cette première constitution et le texte qui l'avait précédé, on est plutôt dans l'appropriation, hein, vu que le concept clé, c'est maslaha, c'est-à-dire l'intérêt.
L'intérêt général.
L'intérêt général, donc le service public, hein, qui était une notion qui, du temps des premiers beys de Tunis, était totalement exotique. Hein. Et cela passe toujours par le même processus. D'abord, une réforme fiscale. Il faut que l'impôt devienne légitime. Il faut que l'État n'apparaisse plus comme prédateur quand il demande aux citoyens de contribuer. Alors, il y a des hauts et des bas. En Tunisie, ça se passe mieux qu'en Égypte, où on continue de faire ça à la schlag. Et évidemment, il y a réforme foncière, hein, et une réforme de l'éducation qui passe par une généralisation de l'imprimerie. Donc, partout se crée une masse critique intellectuelle, universitaire, et avec une laïcisation de la langue arabe qui ne veut pas dire qu'elle abandonne le registre religieux, mais elle sort de l'espace religieux. Elle est enseignée dans des écoles, dans des collèges, dans des universités, elle est publiée dans des livres, dans des journaux, qui ne sont donc plus ni l'école coranique, la médersa, ni la mosquée.
Donc la constitution d'une intellectualité autonome, hein, par rapport à la tutelle religieuse.
Et d'une intellectualité arabe. On va avoir des échanges par le biais de l'imprimé. Ils existaient auparavant, mais ils étaient très limités. Ils concernaient le pèlerinage, le fait qu'on allait de telle ville à telle autre, qu'on séjournait au Caire, qu'on séjournait à Damas. Tandis que là, on va avoir à la fois des échanges d'un bout à l'autre du monde arabe dans une langue qui s'est, au fond, homogénéisée. Et en même temps, on a une diaspora, déjà, c'est très important, une diaspora aussi bien en Europe que en Amérique. C'est le début des premières vagues d'émigration de ce qu'on appelle les Syrians aux États-Unis et les Turcos en Amérique latine, qui sont en fait les Arabes de l'Empire ottoman, et qui eux-mêmes constituent des clubs, des...
Donc, la masse critique, ce que vous avez appelé la masse critique d'une intelligentsia qui a un programme de transformation sociale qui vise à conduire un mouvement d'émancipation des peuples par rapport à tout un ensemble de tutelles traditionnelles. Et ce que vous racontez dans le livre, c'est, me semble-t-il, vraiment l'objet majeur de l'ouvrage, c'est la façon dont ce projet d'émancipation, que vous caractérisez à un moment donné comme le projet visant au droit des peuples à l'autodétermination, va se trouver contrarié par l'histoire de façon récurrente au point d'être durablement étouffé ou ajourné. Voilà ce que vous dites, par exemple, au sujet de ce droit des peuples arabes à l'autodétermination. C'est un droit qui a été, un, dénié par l'intervention coloniale, deux, confisqué lors des indépendances par le grand détournement des régimes militaires. J'aimerais qu'on en parle de ça, de ce moment du grand détournement qui commence notamment à partir de 1949, hein, je crois que c'est ça la séquence historique. Le droit ensuite bafoué par le deux poids deux mesures du conflit pour le Koweït, le droit piétiné au nom de l'impératif de la guerre globale contre la terreur, le droit dévoyé à l'ONU du fait de la représentation des peuples par les régimes qui les oppriment. Donc en fait, tout s'est ligué d'une certaine façon contre cette avant-garde et contre ce mouvement qui était un mouvement d'émancipation qui était né à partir de l'expédition d'Égypte. Et vous nous racontez la longue histoire du malheur d'une émancipation qui n'arrive pas à se produire. Alors, parmi toutes les, je dirais, tout ce qui a pesé contre, hein, ou tout ce qui a joué contre cette volonté d'émancipation, je voudrais en effet qu'on insiste sur quelques moments en particulier. Il y a d'abord ce moment du grand détournement. J'aimerais que vous nous l'expliquiez. C'est ce qui se joue, dites-vous, entre 1949 et 1969, au sein même de toutes les armées de libération contre l'occupant colonial. Il se fait là le détournement ou le dévoiement de la lutte pour les indépendances. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En fait, si on prend le temps long de la Narda, les élites qui représentent cette volonté d'émancipation, elles sont d'abord très affaiblies par l'issue du premier conflit mondial, où elles sont dépossédées de ce qu'elles espéraient voir émerger comme le royaume arabe, et avec sa capitale à Damas, et une dynastie, la dynastie des Hachémites, qui est donc descendante du prophète, et dont le patriarche était gouverneur de la Mecque et de Médine. Et donc on a à la fois la perte du sens national par l'installation des mandats. On parle beaucoup ces temps-ci de Sykes-Picot, mais en fait, l'essentiel, c'est les mandats concrètement dans l'occupation militaire qui suit la Première Guerre mondiale. Mais il faut voir aussi que cette défaite des Hachémites ouvre les portes des deux lieux les plus saints de l'islam à une doctrine hors Narda, anti-Narda, qui jusque-là était totalement marginale et périphérique. D'ailleurs, il faut lire correspondance qu'échangeaient les Tunisiens avec ce qu'on appelait déjà les Wahhabites, les disciples d'Abdel Wahhab, et qui vont mettre ainsi la main sur la Mecque et Médine, donc s'installer au centre de l'islam, alors que si on prend là encore le temps long, depuis le 7e siècle, l'Arabie n'était pas acteur, elle était objet des rivalités entre le Caire, Damas et Bagdad. Et donc, on a ces élites qui vont peu à peu conquérir les indépendances, difficilement, en étant largement contrariées, comme vous l'avez dit, par les différents occupants. Ça commence en Égypte, de façon partielle, après d'ailleurs un soulèvement non violent. Et puis, on a toute la séquence avec la fondation de l'État d'Israël en 1948, où la plupart de ces armées arabes se battent de manière assez peu respectable, mais en revanche vont se venger contre leur peuple. Et le cas syrien est caricatural, mais en même temps il est fondateur. Le chef d'état-major syrien en 1949, battu par Israël, va vaincre son propre pays. Et il ne va pas juste s'emparer du pouvoir, il va abolir les institutions, donc éliminer les élites nationalistes qui, quels que soient leurs défauts, avaient contribué à acquérir l'indépendance. Et cette séquence, elle se poursuit pendant 20 ans, elle commence donc en Syrie, elle s'achève avec Kadhafi en Libye, qui va en 69 éliminer le roi qui avait pourtant acquis l'indépendance de la Libye. Et Kadhafi, de toute façon, est une caricature, mais il était déjà une caricature parce que la différence des différents putschistes qui l'ont précédé, lui en 63 a opté pour la carrière militaire pour prendre le pouvoir. Donc on est dans une logique où on n'est pas militaire pour défendre la maslaha, l'intérêt général, la nation, mais pour se l'accaparer. Et on voit toutes ces cliques militaires en Algérie, en Égypte, en Syrie, en Libye, au Yémen, se mettre en place.
Donc, détournement et captation ou confiscation de la cause de l'indépendance par ce que vous appelez, je vous cite, la militarisation et la radicalisation de la lutte anticoloniale, avec des cas types, vous parlez de la Libye, vous vous attardez aussi beaucoup sur deux cas majeurs, vous analysez, vous revenez sur ce qui se passe au début des années 50, que sont la Syrie et l'Égypte, avec par exemple en Égypte ce putsch qui aboutit donc à la prise de pouvoir de ce groupe qu'on appelait le groupe des officiers libres, c'était en 1952, en juillet 1952. Et donc partout, ça c'est un phénomène un peu complexe, je voudrais que vous nous l'expliquiez, ce qui a donc contrarié, on reprend ce terme, la lutte pour l'émancipation des peuples arabes et pour l'installation de systèmes qui auraient été des systèmes démocratiques, c'est que l'idée nationale, qui au départ est bonne, qui est liée à l'acquisition de l'indépendance, le fait de se tourner ou de se retourner vers l'islam aussi comme ressource de sens, comme ressource d'organisation sociale, etc., va petit à petit là aussi se retourner. Avec un basculement de l'attachement à la nation vers des nationalismes antidémocratique et militarisé. Et puis le retour à l'islam, lui, du côté wahhabite, justement, va donner l'islamisme, hein, c'est-à-dire l'avènement d'une radicalité. Et donc, d'une certaine façon, alors qu'au départ, on a des mouvements qui sont sains, S-A-I-N-S, hein, on a quelque chose qui se pervertit complètement, avec en plus, hein, je dirais, là, c'est vraiment la double peine, non seulement l'apparition d'un nationalisme, dans le sens le plus péjoratif du terme, et d'un islamisme, mais en plus la lutte de l'un contre l'autre.
Exactement, qui polarise, et je ne l'ai sans doute pas assez souligné, dans la Narda, ce qu'on appelle aujourd'hui nationalisme, et ce qu'on appellerait islamisme, au fond c'est intimement lié. Il y a un certain nombre de personnalités, je pense entre autres à l'immense auteur syrien Abdelrahman Kawakibi, qui, si j'ose dire, communient sous les deux espèces, parce qu'ils veulent à la fois être nationalistes contre les Occidentaux et islamistes, dans le sens être meilleurs musulmans que les Turcs ottomans. Or, cette synthèse de la Narda, elle est brisée par l'affrontement que vous venez de décrire, qui est un affrontement qu'à deux pôles, hein, entre l'Égypte, donc de Nasser et des officiers libres d'un côté, et l'Arabie du roi Faisal de l'autre. Et comme aujourd'hui, l'affrontement qui déchire la région entre l'Arabie et l'Iran a pour terrain de guerre par procuration privilégié le Yémen, c'est déjà le cas. Et c'est là où l'historien, de temps en temps, souligne les paradoxes, c'est-à-dire les mêmes populations qui, à l'époque, étaient le soutien absolu de l'Arabie saoudite contre l'Égypte républicaine, sont aujourd'hui les ennemis absolus de l'Arabie saoudite dans le cadre d'une alliance un peu étrange avec l'Iran. Mais je reviens sur la personnalité de Nasser. Alors, parce qu'on a, bon, je pense qu'il y a une certaine complaisance pour faire ça.
Voire une mythologie autour de ce que vous appelez le rêve tiers-mondiste. Et vous dites par exemple la chose suivante à ce propos. Vous dites qu'à ce moment-là de l'histoire, hein, on est donc dans les années 50, donc 50-60. La violence infligée aux Arabes par ce grand détournement est mal comprise par les observateurs contemporains. Pourquoi ? Parce que ces observateurs sont à l'heure des grands récits tiers-mondistes.
Des grands récits tiers-mondistes et de la culpabilité postcoloniale qui peut parfaitement se comprendre. Mais en l'espèce, elle ne s'applique pas à ceux qui ont été les victimes. Nasser surfe sur cette vague. Il a fort peu contribué au cours de sa carrière à cette soi-disant libération. Et puis on oublie trop, y compris d'ailleurs en Égypte, c'est un frère musulman qui a quitté l'organisation. Et c'est quelqu'un, alors les anciens frères musulmans, c'est toute une histoire. Hein.
Oui, il y a frère musulman et frère musulman, sur le plan historique, là encore, il y a des variations de doctrine.
Des variations. Et puis il y a ceux qui ont quitté l'organisation, qui la connaissent de l'intérieur, mais qui ont gardé tous les ressorts les plus liberticides.
Voilà, il y a tous ceux qui ont migré dans le Golfe dont vous parlez, et qui là se sont vraiment considérablement radicalisés dans le bain
saoudien. En créant justement par cette synthèse avec le wahhabisme local, ce qu'on appelle l'islamisme contemporain. Mais je reviens sur Nasser, parce qu'au fond, Nasser, quand il prend le pouvoir, il est totalement soutenu par les frères musulmans. Ce sont eux, l'organisation de masse, qui en janvier 1952 mettent le feu au lycée, au café, au théâtre du Caire, et préparent le terrain de la révolution du 23 juillet 1952. Et pendant deux années, au fond, et ça rappelle vraiment ce qui s'est passé en Égypte de 2011 à 2013, ces militaires et ces frères musulmans, eh bien chacun est convaincu qu'il va l'emporter sur l'autre. Et puis à la fin, c'est Nasser qui leur portera l'estocade à la faveur d'un complot sans doute totalement monté. Donc, il faut pour le régime de Nasser totalement purger toute forme d'opposition. Hein. Les manifestants pro-Nasser ont quand même des slogans qui auraient pu faire réfléchir quelques observateurs occidentaux. Pas de parti, oui. Pas d'élection, pas de démocratie.
Qu'est-ce qu'il reste ?
Voilà. Hein, donc, une espèce de communion. Et on voit que là aussi, hein, ça correspond avec un culte du père, avec tout ce que ça implique, sans faire de la psychanalyse de bazar. Hein, mais on voit bien que le père parle et le peuple écoute. Et de temps en temps, le peuple vote. Évidemment, quand il vote, c'est à 99% pour reconduire le papa à son siège. Mais derrière tout cela, il y a des luttes de pouvoir absolument terribles au sein des cliques militaires qui elles-mêmes sont le moteur de l'aggravation de la répression interne. Parce qu'au bout du bout, il y a ce que j'appelle une sélection darwinienne, c'est le pire qui l'emporte.
C'est le pire qui l'emporte, et toujours donc au détriment d'un peuple consciencieusement, parfois massacré, ou en tout cas embastillé, dès qu'il manifeste des velléités d'opposition, et vous montrez comment l'émancipation, encore une fois, on reprend notre thème, hein, l'émancipation des peuples arabes, au-delà même de cette première période, va encore se trouver contrariée par d'autres phénomènes. Il y a un de vos chapitres qui a pour titre, qui concerne la séquence 70, on avance dans le temps, hein, 70-1991, vous dites d'un désastre à l'autre, et là vous portez la focale un petit peu ailleurs, en particulier on parle moins de l'Égypte et on parle plus de la lutte entre les deux basses, hein, c'est-à-dire entre les deux parties. Vous allez nous rappeler ce qu'était le bas irakien et le bas syrien. Mais toujours selon la même logique, le même mécanisme maudit, c'est-à-dire au détriment de la volonté d'émancipation du peuple et au profit d'un autoritarisme politique.
Et dans les deux cas, on a Hafez el-Assad et Saddam Hussein qui réellement sont les pires qui pouvaient sortir de leur boîte de Pandore respectifs. Et on voit bien que l'enjeu est purement politique, vu que ce sont deux partis qui professent la même doctrine, qui est soi-disant celle d'un socialisme arabe, voilà, même si on arrive mal à en voir les contours, Bass lui-même voulant dire résurgence.
Mais qu'est-ce qu'il avait de socialiste finalement?
Il y avait une vraie agressivité de classe de la part de, en tout cas en Syrie, encore plus qu'en Irak, de la part d'une paysannerie moyenne et pauvre. Hein. Il y a des travaux extraordinaires d'Anna Batato sur les deux pays, aussi bien sur la Syrie et sur l'Irak. Et donc, effectivement, il y a eu, par une réforme agraire, mais qui n'était pas vouée à servir la population, mais qui était vouée à constituer une nouvelle classe de propriétaires au profit de ces paysans déshérités qui avaient connu l'ascenseur social de l'armée, hein, pour arriver au pouvoir de la manière la plus sanglante. Alors, en Syrie, ça va donner une dynastie qui continue à faire le malheur de son peuple, la dynastie des Assad. Mmh. C'est le seul cas, beaucoup de dictateurs ont essayé de transmettre le pouvoir à leur fils, mais aucun n'y est arrivé, à la différence de Hafez al-Assad pour son fils Bachar. Et en Irak, ça va devenir le système le plus proche d'un modèle totalitaire, avec Saddam Hussein et un embrigadement de la population qui va être aggravé par les sanctions internationales qui vont suivre la libération du Koweït en 1991. Mais je mentionne juste que quand on parle d'alliance régionale, toute l'idéologie que ces soi-disant socialistes arabes professent est passée par perte et profit. Les alliés pendant longtemps de Saddam Hussein sont les pétromonarchies du Golfe, alors que depuis 1979, Assad a pour partenaire stratégique la République islamique d'Iran.
Donc à Damas comme à Bagdad va s'installer, vous reprenez l'expression de Michel Seurat, va s'installer l'État de barbarie. Hein, vous avez là, vous parlez aussi de, à l'instant, de totalitarisme. Je rappelle le livre de Michel Seurat, donc qui était paru au PUF en 2012 et qui avait ce titre éloquent d'État de barbarie. Alors on continue dans le malheur avec ce que vous appelez donc encore un phénomène aggravant, la malédiction du pétrole. Hein, la malédiction du pétrole. Je vous lis. Et donc là, on se transporte du côté côté des pays du Golfe. Le choc pétrolier de 1973-1974 va profondément transformer les sociétés arabes, portant un coup qui aurait pu être fatal, on serait tenté de rajouter un de plus, peut-être un de trop, à la dynamique, déjà largement grippée, hein, de la Nahda. Les pétromonarchies, au premier rang desquelles l'Arabie Saoudite, sont en effet porteuses d'une idéologie anti-Nahda qui s'est consolidée à la faveur de l'installation dans le royaume des frères musulmans rescapés de la répression d'Égypte et de Syrie. Plutôt que, et alors vous précisez, à propos de ces islamistes réfugiés d'Égypte et de Syrie, plutôt que la vision de Banna, Hassan al-Banna, ces islamistes exilés sont animés par la pensée bien plus sectaire de Saïd Qoubt, idéologue des frères musulmans sous Nasser, et pendu sur son ordre en août 1966. Voilà, donc encore un facteur aggravant, ce qui se passe du côté du choc pétrolier en 1973.
Oui, alors très souvent, on le voit aujourd'hui avec les déguisements, il n'y a pas d'autre mot, des salafistes, ce qu'on nous présente comme des retours aux sources, c'est en fait l'importation de modèles étrangers. Mmh. Et on voit que les communautés émigrées dans le Golfe vont aussi revendiquer leur ascension sociale quand elles reviennent au pays, en Égypte, en Syrie, en Algérie, en épousant, en mimant les modes vestimentaires, les modes de consommation. Vous savez, il y a eu un moment, enfin vous le savez parfaitement, où on n'avait pas de haut-parleurs dans les mosquées. Il y a eu un moment où on n'imposait pas le ramadan par la force.
Et maintenant, dans la plupart des villes arabes, au moment de la prière, c'est la cacophonie des haut-parleurs.
Oui, c'est généralement assez peu mélodieux.
C'est très peu mélodieux, le reconnaître.
Oui, en effet. Mais il y a eu un avant tout cela. Hein, il y a eu un avant de donc ce que j'essaie de montrer comme historien, c'est que rien n'est fatal dans ces développements, hein, et que ce qui est survenu, eh bien, peut être corrigé, contré, amendé, en tout cas peut évoluer. Mais la malédiction du pétrole, elle ne joue pas que du côté des pétromonarchies. Saddam Hussein, Kadhafi ou Boumediene n'auraient jamais pu financer leur politique les moins rationnelles, ont en Algérie ruiné la base agricole du pays, en Libye largement détruit l'écosystème, en Irak totalement transformé tout le bassin de l'Euphrate. Eh bien, tout ça n'aurait pas été possible sans cette munificence pétrolière qui a permis à des régimes, au fond, de ne plus être responsables devant leur peuple, s'ils n'avaient jamais pensé l'être, puis qu'ils pouvaient puiser de manière éhontée dans ces ressources qui, d'ailleurs, étaient leurs propres. Et dans la plupart de ces pays, le budget du pétrole est un secret d'État. De même, d'ailleurs, que le budget des forces armées, ce qui montre bien le lien entre ceci et cela.
C'est le cas du Qatar aujourd'hui
Pour le Qatar, c'est largement le gaz plus que le pétrole. Oui. Et le Qatar, lui, c'est un mode particulier. Hein. C'est un État postmoderne dont on peut discuter.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, au fond, au Qatar, le pouvoir se réduit à une demi-douzaine de personnes. Donc c'est une forme, et cette demi-douzaine de personnes a des possibilités financières pratiquement illimitées. Alors que dans l'Arabie saoudite voisine, qui n'a pas de constitution vu qu'elle prétend que le Coran l'est, ce qui est en soi un peu perturbant, on a au moins 3000 membres de la famille royale. Donc la politique sait déjà comment gérer ces 3000 membres, et on a une vraie population avec une vraie jeunesse, des vrais problèmes de développement que le Qatar ne connaît absolument pas.
Que le Qatar ne connaît pas. Bon, alors Jean-Pierre Filou, je rappelle votre livre, le titre de votre livre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération. Donc on le comprend en vous écoutant, une libération qui est continuellement ajournée et qui est ajournée aujourd'hui. Hein, on en arrive à l'histoire la plus contemporaine et à l'heure la plus brûlante, la plus urgente. Qui est ajourné par le fait que aujourd'hui un certain nombre d'autoritarismes du monde arabe, je vous cite, ont alimenté le monstre djihadiste. Hein, donc on va parler un peu de Daesh et on va parler de toutes ces monstruosités. Et vous dites que ces autoritarismes ont alimenté le monstre djihadiste parce que, dites-vous, et donc on voit bien comment c'est toujours la même logique de fond qui opère, ils sont prêts à tout pour étouffer la contestation. Et donc pour continuer méthodiquement et méchamment, si je voulais parler comme au XVIIIe siècle, éradiquer dans l'œuf tout progrès d'émancipation véritable vers la démocratie des peuples arabes. Alors expliquez-nous cette instrumentation par laquelle les monstres de Daesh et d'autres ont pu surgir de l'action délétère de ces autoritarismes.
Alors les djihadistes étaient là, ils étaient d'ailleurs largement là du fait de la catastrophique invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Mais il faut voir que les djihadistes ont été complètement déstabilisés par la vague de protestations démocratiques de l'hiver 2011. qui allait à l'encontre de tout ce qu'il professait, d'abord parce qu'elle était pacifique et non violente, ensuite parce qu'elle visait les régimes en place et non pas les soi-disant parrains infidèles des dix régimes, et enfin parce qu'elle se faisait au nom de valeurs de démocratie et de pluralisme qui sont, alors d'ailleurs, Baghdadi, hein, qui à l'époque intéressait peu de monde, qui aujourd'hui est le calife autoproclamé du bien mal nommé État islamique Daesh, disait que c'était les noces de la prostitution et de la perversité, ce soulèvement démocratique, pour dire déjà tout le bien qu'il en pensait. Donc ce que, on va avoir différents jeux des dictateurs, hein, un jeu très direct en Syrie où Assad va libérer des centaines de djihadistes qui vont aller grossir les rangs de ce qui va devenir Daesh, alors même qu'il embastillait, torturait, éliminait des milliers de manifestants pacifiques. Au Yémen, on a Ali Abdallah Saleh, donc, qui était au pouvoir depuis 78 sur le Nord-Yémen, depuis 90 sur le Yémen unifié, qui va livrer des pans entiers du pays aux djihadistes pour se présenter comme Assad en Syrie, comme le seul rempart face à eux. Et puis on a un jeu plus trouble, plus indirect, mais qui est tout aussi négatif en Égypte, où finalement les militaires vont renverser le président élu des frères musulmans en juillet 2013, président qui avait fait des erreurs impardonnables, qui avait voulu gouverner au nom d'un parti et non de l'intérêt national, mais qui était le premier président élu de l'histoire de l'Égypte, et en le renversant, en suscitant en provoquant un véritable bain de sang dans les rues du Caire, eh bien ils vont alimenter ce qui est aujourd'hui la menace djihadiste dans le Sinaï, mais dans la vallée du Nil. Et donc on voit des systèmes dont le mantra est sécurité, 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 qui pendant des années ont expliqué qu'après tout, toutes les libertés peuvent être piétinées, mais eux assuraient la sécurité, qui sont absolument incapables d'assurer un minimum de sécurité. Aujourd'hui au Caire, quand on est assis à un dîner, si on entend une bombe, les gens ne s'y même plus, ils continuent leur conversation. C'était invraisemblable il y a seulement quelques années. Je ne vous rappelle pas dans quel état atroce se trouve aujourd'hui la Syrie ou le Yémen. Et tout ça, c'est au nom et largement du fait de ces dictateurs qui ont prétendu être le seul rempart contre les djihadistes qu'en fait ils alimentaient.
Voilà, donc pour pouvoir apparaître comme le seul rempart, ils ont joué ce jeu extrêmement dangereux et même suicidaire pour leur propre pays, de la libération, vous en avez parlé notamment, hein, de la libération de milliers de d'activistes ou de djihadistes qui étaient auparavant embastillés. Bon, et j'aimerais qu'on termine en revenant donc à la lumière de tout cela sur le thème de la compréhension ou de l'incompréhension occidentale. Comment est-ce que l'Occident en général et la France en particulier se positionne par rapport à ce que vous venez d'appeler ce jeu des dictateurs ? Et lorsque vous dites par exemple dans votre livre à un moment donné que la France de Hollande renvoie dos à dos les deux bourreaux du peuple syrien, est-ce que, je m'explique, donc Assad d'un côté et Daesh de l'autre, est-ce que, à votre avis, c'est un signe de compréhension ou d'incompréhension ?
Ah, je pense que non seulement c'est un signe d'incompréhension, mais malheureusement de grande solitude. Je crois que c'est une des raisons, cette compréhension, pour laquelle il y en a d'autres, hein, notamment le fait que la France a la plus grande population musulmane et population juive d'Europe. Oui. Mais une des raisons pour laquelle la France a été frappée le 13 novembre dernier. Ce qui est terrible, c'est que les autres Européens n'ont pas cette sensibilité, n'ont pas ce sentiment d'urgence. Je pense que ce qui se passe dans le monde arabe depuis 2011 est l'équivalent en termes de secousses telluriques de la chute du mur de Berlin en 89. On se rappelle que alors l'empathie était au rendez-vous, quelles que soient les tristes cires populistes, nationalistes, réactionnaires qui émergeaient sur les ruines du communisme en 1989. On était dans une forme de solidarité beaucoup plus spontanée. Là, il n'y a pas eu cette solidarité, loin de là. Hein. Les mouvements ont été pour le moins raisonnables en 2011. Et puis très vite, on est passé du printemps arabe à l'automne islamiste, à l'hiver intégriste. Et on s'est détourné des Arabes comme si c'était leur problème. Or, ce que j'essaie de rappeler, c'est que c'est autant le nôtre que le leur. Nous ne pouvons pas, au vu de cette histoire commune, envisager autre chose qu'un destin partagé, malheureusement pour l'instant, c'est pour le pire que nous vivons les conséquences de ce déni d'émancipation fait au peuple arabe. Mais la Tunisie n'est pas qu'une exception, elle ne doit surtout pas rester une exception, je crois d'ailleurs que si elle reste une exception, son modèle et sa transition seront condamnés. C'est au contraire l'avenir. Hein. Et on voit bien que ça passe non pas par la victoire d'un camp sur l'autre, qui a été couronné par le prix Nobel de la paix, des gens qui ont fait la médiation entre les nationalistes et les islamistes, pas les uns ou les autres. Mmh. Des gens qui ont justement dit aux deux courants politiques, écoutez, une constitution, c'est fait pour vivre ensemble, donc il faut que vous mettiez vos différences de côté pour mettre en avant ce qui est l'essentiel. Je crois que ce destin-là, il n'y a aucune raison qu'il reste limité à la Tunisie. Même au Liban, même en Irak, dans la tourmente actuelle, vous voyez des mouvements constitutionnels, qui sont des mouvements qui refusent d'être réduits à une identité confessionnelle, malgré tout ce que le système veut leur imposer, et qui disent « c'est la classe politique qui est corrompue, nous voulons refondre le pacte social ». Et je crois qu'on est à 4 ans, bientôt 5, du début de ce soulèvement démocratique. C'est un mouvement de longue durée. Et ce que j'essaie de montrer dans cet écrit, c'est qu'il nous concerne et que son destin participe aussi du nôtre.
Merci beaucoup Jean-Pierre Filiou. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer aussi bien sur l'actualité la plus immédiate que sur la séquence de longue histoire qui nous permet de comprendre véritablement les enjeux à long terme de ce qui se passe aujourd'hui du côté du monde arabe. On écoute aujourd'hui le Zarb de Jamshid Shemirani. Siècle, le grand poète mystique Jalaluddin Rumi, qui a beaucoup parlé de la musique. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il nous parlait du ney, de la flûte. Eh bien, Jalaluddin Rumi écrivait « Ô Dieu, donne aux musiciens des doigts de sucre et pour le zarb, une main de fer ». Voilà, aujourd'hui on écoute le zarb, justement. Le zarb, qu'on a pu appeler parfois un tambour calice ou un tambour godet, parce qu'il a la forme justement d'un godet. On écoute donc de la musique traditionnelle iranienne, et la particularité du disque que vous êtes en train d'écouter, du morceau que vous êtes en train d'écouter, c'est que, tandis qu'habituellement le zarb est un instrument d'accompagnement, aujourd'hui il est joué comme instrument principal par un soliste, par ce soliste qui fut un grand maître, qui est toujours un grand maître du zarb, qui s'appelle Jamshid Shemirani. Si je parlais de Jamshid Shemirani en disant qu'il fut, c'est qu'il est aujourd'hui, certes toujours vivant, mais bien relayé par ses deux fils, Kayvan et Bijan Shemirani. Dieu donne aux musiciens des doigts de sucre et pour le zarb une main de fer. Donc c'est la petite phrase de Rumi. Mais ce n'est pas cette petite phrase que je veux commenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice un petit peu particulier, un peu périlleux, pour lequel je ne sais pas si je suis bien outillé, c'est-à-dire si mes connaissances en matière musicale sont suffisantes. Je voudrais commenter justement la phrase musicale du zarb. La phrase musicale du zarb, c'est un peu curieux d'ailleurs de parler de phrase musicale, puisque le zarb n'est pas un instrument mélodique. On pense souvent que c'est la mélodie qui raconte une histoire, et donc qui forme une phrase, et qui forme des phrases, qui forment elles-mêmes le long fleuve d'un récit. Le zarb est un instrument rythmique. Et pourtant, je crois qu'il y a une phrase. Le zarb nous parle, surtout là, lorsqu'il est joué par un soliste, par Jamshid Shemirani. il nous parle de quelque chose, mais il est difficile d'interpréter la parole du Zarb, il est difficile d'interpréter la phrase du Zarb. Parce qu'il est difficile d'interpréter quelque chose qui nous apparaît sur ce mode aussi discontinu. Hein. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de fluidité. On a l'impression que c'est à chaque fois le même son qui revient, ou en tout cas que la gamme des sons, la gamme des sonorités est assez étroite. On a le sentiment, et je crois que c'est dans ce sens-là que le Zarb nous raconte une histoire, que cette répétition d'une sonorité majeure induit en nous un mouvement qui est un mouvement de concentration et de méditation. On est continuellement ramené sur ce que j'appellerais l'unicité d'un instant qui se répète, comme si à chaque frappe du Zarb, on avait affaire à ce que j'appellerais la matérialisation sonore d'un atome de temps, comme si on avait affaire à chaque phrase du Zarb à une note de temps, ou à une note d'instant, ou à une goutte d'instant. Hein, vous voyez de quelle façon le son du Zarb évoque assez facilement une goutte qui tombe sur un support. Donc quelque chose qui se répète, quelque chose qui peut être interprété à mon sens de deux manières. Cette répétition de l'instant peut être interprétée de deux façons. Soit on considère qu'il s'agit là d'un rappel, qui invite beaucoup à la méditation, du temps qui s'égrène. On a des grains de temps qui tombent, ou des graines de temps qui tombent les unes après les autres, et qui nous rappellent notre vie dans le temps, comme notre vie sous le coup d'un sursis, d'un temps qui s'égrène et qui diminue, justement. Donc là, c'est le sursis du temps. À chaque son de Zarb, c'est une seconde de moins. Et donc c'est la mort derrière hein, qui nous guette, c'est l'horloge de Baudelaire. Hein. Bon, c'est à chaque son du Zarb, c'est la seconde en moins dans notre existence. Mais de façon beaucoup plus à la fois positive et profonde, et peut-être spirituelle, chaque grain de temps nous dit aussi que peut-être le temps nous est donné tout entier à chaque instant. Hein, c'est-à-dire que c'est ça aussi la discontinuité de la musique. L'histoire est tout entière racontée en un instant, comme si chaque instant résumait à lui seul la ligne du temps, qui n'est donc plus une fuite. Hein, il n'y a plus de mélodie et donc il n'y a plus de fuite. À chaque fois, la totalité du temps nous est donnée dans l'instant, et par la porte de l'instant, peut-être qu'il y a un passage vers l'éternité. Des deux fils de Jamshid Shemirani, Kayvan et Bijan, qui sont eux aussi d'éminents joueurs de zarb, et je ne résiste pas à vous donner le titre d'un concert qu'ils ont donné en octobre 2015 à la Philharmonie de Paris, aux Zarb musiciens. Culture, culture d'islam, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons eu le grand plaisir de recevoir Jean-Pierre Filiou pour son livre « Les Arabes, leur destin et le nôtre ». Vous pouvez retrouver toutes les références des livres, des musiques écoutées aujourd'hui sur le site franceculture.fr. Je remercie toute l'équipe qui a préparé avec moi cette émission, Dominique Compétissa pour la production, à la prise de son Jean-Louis Deloncle et bien sûr à la réalisation Franck Lilin. Thank you. dans quelques instants, nous retrouvons Louise Touré pour La Rue des Écoles.